Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises.
Attends, est-ce que depuis que t'es sorti de l'école, t'as déjà réutilisé dans ta vie un compas?
La curiosité est un vilain défaut.
Sortez tous vos compas! Moi j'ai jamais dit à ma femme à la maison, chérie, sors le compas, on a des invités, allez!
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises.
Je voulais juste savoir si vous aviez reçu le texte de l'interro. Eh ben si, je voulais tous envoyer ce matin par ZVZ, là, sur vos iPod Giga Bluetooth XP 12.0. Celui qui commence par CKOI. C'est quoi un livre?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'humoriste, les humoristes Isabeau Dehaere, Gad Elmaleh et Henri Dess, évidemment, pour illustrer notre thème, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est demain pour les profs, jeudi pour les élèves. On va répondre à une question que se posent beaucoup de parents. Pourquoi l'échec scolaire frappe-t-il plus les garçons que les filles? Bonsoir Elsa Abdoun.
Bonsoir.
Bienvenue dans notre studio, dans votre studio de la curiosité. Vous êtes journaliste pour le magazine Science et Vie. Vous signez en partenariat avec RTL un article sur ce thème dans le numéro de septembre. L'injustice faite aux garçons. C'est le titre de cet article. Je me suis dit, c'est quand même un peu gonflé, parce que je pense que les garçons qui ne réussissent pas à l'école, ils ont une petite part de responsabilité, ou une grande, on va en parler. C'est vraiment une injustice ou c'est un peu de leur faute quand même?
Tout dépend de ce que vous entendez par leur faute.
Oui.
Effectivement, si la question c'est est-ce que les profs mettent de moins bonnes notes aux garçons délibérément ou même inconsciemment parce qu'ils sont des garçons, alors non, ce n'est pas ça le problème. C'est effectivement un problème de comportement de la part des garçons et des moindres performances aux tests, aux examens. Mais la question intéressante, c'est de savoir d'où viennent ces comportements et d'où viennent ces moindres performances. Et on va en discuter. Mais
on se rend compte que ça remonte très loin. Ça remonte
oui.
à des stéréotypes, on va les détailler.
Exactement.
Tout à l'heure, on va commencer, si vous voulez bien, Elsa Abdoun, par le constat. Le constat de cet échec scolaire qui frappe plus les garçons, par exemple. Tiens, le bac, c'est quoi la proportion? Il réussit plus aux filles, le baccalauréat?
Oui, il y a plus de filles qui se présentent au bac et il y a plus de filles qui le réussissent pas une fois qu'elles se présentent. On a du coup 85% de bachelières parmi les jeunes filles, et seulement 73% de garçons qui ont le bac. C'est déjà une belle différence. Il y a d'autres marqueurs comme ça qui sont très nets.
Cet écart, il a tendance à se réduire avec le temps ou à s'aggraver?
Alors, sur le bac, il augmente, il se creuse légèrement. Ça reste quelques points de pourcentage quand on remonte à 2000. Si on remontait plus loin, l'écart se creuse encore plus. Mais il y a, je pense, un marqueur plus évident de cet écart qui se creuse, c'est au niveau des études supérieures. Au début des années 90, les filles comme les garçons étaient à peu près de l'ordre d'un tiers à poursuivre dans les études supérieures.
Ouais.
Ce taux n'a augmenté que chez les filles depuis. Elles sont maintenant pour moitié diplômées du supérieur et
donc
les garçons sont toujours un tiers.
Dans une classe d'âge, il y a une fille sur deux qui réussit à être diplômée du
supérieur
et seulement
un garçon sur trois.
Ah,
voilà.
Vous disiez qu'il y a plus de filles qui se présentent au baccalauréat que de garçons. Ça veut dire que les garçons sont plus décrocheurs, c'est ça? Ils quittent l'école avant?
C'est ça. Typiquement, du coup, on voit dans les chiffres qui représentent l'inverse, c'est-à-dire les élèves qui vont quitter l'école sans le bac, sans diplôme même, ou avec seulement le brevet. C'est 24% des garçons, 13% des filles.
Et ça veut dire que il y a forcément un retard qui s'accumule. Par exemple, dès la sixième, on voit déjà un retard dans les connaissances entre la maîtrise de l'apprentissage entre les garçons et les filles.
Alors, en sixième, on voit déjà un retard, c'est-à-dire un effet du redoublement. On a 9% des filles seulement qui ont redoublé avant la sixième, 12% des garçons. Et dans les compétences acquises, ce sont des tests qui sont faits par le ministère de l'Éducation nationale, qui sont standardisés sur tous les collèges, pour voir quels sont les acquis des élèves. Et en fin de troisième, on observe que 88% des filles ont les compétences de base en français, en fin de troisième. Elles sont aussi environ 80% en sciences. Or, les garçons sont seulement 73% à avoir obtenu, acquis ces compétences de base.
Donc il y a déjà l'écart qui se creuse comme ça dès les premières années d'études de ces jeunes.
Alors ça, c'est le constat, on l'a compris, il est bien clair. On va maintenant essayer de comprendre d'où ça vient, et pas seulement, vous nous l'avez dit, du fait que les garçons travaillent peut-être moins ou sont plus turbulents. Il y a ce que vous appelez les stéréotypes machistes qui jouent un rôle. Expliquez-nous ça, Lisa Bloom.
Et il y a tout un tas de stéréotypes qui jouent globalement. C'est un effet très important. Et les stéréotypes machistes, donc, pour le résumer grossièrement, l'idée que le sexe masculin, c'est le sexe fort, que les hommes sont bourrés de plein de qualités et les femmes de faiblesses. Effectivement, bizarrement, ça participe à l'échec scolaire des garçons. Pourquoi ? En tout cas, c'est une hypothèse. Et l'hypothèse qui est faite, c'est par exemple qu'on va considérer que l'univers scolaire est un univers féminin. Pourquoi ? C'est une hypothèse qui est faite notamment par un pédopsychiatre qui est Stéphane Clerget, qui est l'auteur de Les garçons en danger sur ce sujet, et qui la propose. Il dit que il y a une prédominance de femmes parmi le personnel scolaire, les instituteurs, les professeurs, les CPE, conseillers d'orientation,
le personnel de la cantine,
médecins, tout le personnel, surtout dans les petites classes, et principalement féminin, et que ça pourrait participer à une image féminine du coup de l'école. Ensuite, le fait aussi que ce sont principalement les mères qui s'occupent des devoirs, plus que les papas encore.
Mais c'est encore vrai aujourd'hui, ça.
Oh bah oui.
Avec les femmes qui travaillent de plus en plus, bah ça m'étonne.
Mais ça veut dire quoi que ça? Quel impact sur ces jeunes enfants, en fait, sur ces jeunes garçons?
Eh bien,
cette féminisation de l'école.
Ces stéréotypes machistes, ils ont tendance à faire éviter aux garçons tout ce qui est féminin. Ce qui est féminin,
C'est pas cool.
C'est pas cool. Voilà. Donc, et c'est des études britanniques qui le montrent assez bien d'ailleurs, qui sont allées interroger des petits garçons de collège et qui disaient, de manière édulcorée dans le résumé de l'étude, mais qu'ils ne souhaitaient pas travailler dur à l'école, ne pas être le premier de la classe, pour ne pas passer pour des filles ou des homos, ne pas avoir l'air efféminé.
Ah oui, c'est assez grave quand même.
Les garçons échouent plus que les filles à l'école, on l'a compris. Et si c'était également lié à leur loisir ? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'injustice faite aux garçons, c'est le titre choc de l'article que le magazine Science et Vie consacre à la rentrée scolaire. C'est en partenariat avec RTL. Cette injustice, Elsa Abdoun, ce sont les chiffres de l'échec scolaire qui l'illustrent. On le disait tout à l'heure, plus de 25% des garçons arrêtent leur scolarité sans le bac. C'est presque deux fois plus que les filles. Est-ce que ça commence à se faire ressentir cet écart sur le marché du travail ?
Bon, sur le marché du travail, encore au global, les hommes sont privilégiés toujours en France par rapport aux femmes. Leurs salaires sont en moyenne meilleurs. Ils sont moins sujets au temps partiel imposé.
Ils peuvent avancer plus loin dans leur carrière, à des postes mieux payés.
Tout à fait. Et leur taux de chômage reste encore, toute classe d'âge confondue, inférieur à celui des femmes. Cela dit, on commence à observer une inflexion, un petit changement. Et il y a une étape symbolique qui a été franchie en 2007 et qui s'accentue depuis, notamment avec la crise économique, c'est le taux de chômage des jeunes hommes qui est passé au-dessus de celui des jeunes femmes. Et c'est vraiment dû à une diminution du nombre d'emplois peu qualifiés. Et évidemment, les hommes, les jeunes hommes étant moins diplômés, sont plus dépendants de ces emplois-là. Donc on voit un effet réel.
Elsa Abdoun, l'une des surprises que j'ai eues en lisant votre article dans Science et Vie, c'est l'image de la lecture auprès des garçons. La lecture perçue comme une activité féminine, là encore.
Oui, tout simplement parce qu'elle l'est, hein. C'est très clair. Les filles, les petites filles lisent beaucoup plus que les petits garçons. On les encourage plus à des activités calmes, les petites filles. Et la lecture, ça correspond bien, pendant qu'on incite les garçons à aller se défouler dehors.
Mais ça, vous dites on incite, ça veut dire que le personnel scolaire ou les encadrants dès la crèche ont ces stéréotypes en tête, c'est ça?
Ah, c'est les parents aussi.
Les parents aussi,
bien sûr. En lien avec ce sujet, effectivement, les encadrants des crèches, les assistantes maternelles, puisque ce sont très principalement des femmes, ont aussi une attitude différenciée avec les très jeunes enfants. À 1 ou 2 ans, déjà, on va plus couper la parole aux petites filles. On va également plus les inciter, comme je vous le disais, à des activités calmes que les garçons, avec l'idée que les garçons seraient naturellement agités. Que ce soit vrai ou non, d'ailleurs, on pourra peut-être en discuter plus tard des facteurs biologiques. Que ce soit vrai ou non, on a cette idée en tête. Et donc, on va quelque part procéder à une...
On imprime des préférences, quoi. des comportements.
On finit par créer des comportements différenciés qui n'étaient peut-être pas là au départ. Et pour la lecture, pour revenir sur la lecture, donc les filles vont aller vers cette activité plus calme, vont beaucoup plus lire de romans en particulier. Et puis il y a autre chose, il y a une hypothèse qui est assez intéressante d'un sociologue, Bernard Lahir, qui a beaucoup étudié le travail d'écriture domestique, c'est-à-dire les factures, tout l'administratif à la maison.
Oui.
Et il démontre que dans certains milieux populaires et dans certaines familles immigrées, c'est souvent la mère qui s'occupe de cet administratif-là. Donc ça participe aussi à cette image de la lecture, du maniement de la langue comme quelque chose de féminin.
De réservé aux femmes. Donc la lecture, c'est pas cool, écrire, c'est pas cool, il reste pas grand-chose. Et les maths, c'est cool ? Pour les garçons ou pas ?
Les maths, c'est cool pour les garçons, effectivement. Ouais. Et malheureusement, du coup, ça joue, effectivement, ce stéréotype-là joue en défaveur des filles. Pour le coup, là, c'est elles qui sont lésées.
C'est pour ça que j'étais la seule fille, il n'y avait pas un garçon, je voulais dire plutôt, dans les sections littéraires. Moi, j'ai fait des études littéraires, il y avait très très peu de garçons.
Mais oui, mais quelle tristesse. Vous expliquez même dans votre article que dans des tests de lecture, les garçons ne réagissent pas de la même façon si on leur dit que c'est un test de lecture.
Non.
À ce moment-là, ils se dévaluent d'une certaine façon.
C'est ça.
Et si on leur dit que c'est un jeu, ils ont de meilleurs résultats.
Tout à fait. C'est vraiment très intéressant comme étude. Et d'ailleurs, on peut la mettre en parallèle avec une autre sur les stéréotypes, l'effet des stéréotypes sur les filles en mathématiques. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la même équipe qui a fait ces deux études. Donc, pour la lecture, on présentait aux jeunes enfants un test de lecture. Donc, comme vous le disiez, il fallait trouver des mots qui désignaient des animaux dans un texte en un temps limité. Dans un cas, on dit qu'il s'agit d'un test de lecture, dans un cas, un jeu. Et effectivement, les garçons réussissaient exactement comme les filles dans le cadre du jeu et absolument beaucoup moins bien dans le cadre du test de lecture. Et c'est la même chose qui a été retrouvée en mathématiques pour un test de géométrie, qui était présenté dans un cas comme un test de géométrie, officiellement, et dans l'autre comme du dessin. Et là, les filles.
C'est la compétition dans le jeu, c'est ça ?
Alors, justement, on pourrait penser que c'est une question de motivation, que finalement, les garçons s'intéressent plus quand on leur dit que c'est un jeu. Ce n'est pas ça, puisque c'est justement les garçons qui étaient les plus motivés par la lecture, par le test de lecture, qui réussissaient le moins bien. Donc, c'est vraiment l'idée d'un stress lié au stéréotype. Ils se savent même inconsciemment victimes de stéréotypes. Et ce stress-là, ils le ruminent pendant l'examen et ça diminue leur performance.
Alors, je disais tout à l'heure qu'on allait évoquer les loisirs et l'impact des loisirs sur cet échec scolaire des garçons. On va encore nous ressortir les jeux vidéo et le côté mauvais des jeux vidéo. J'ai l'impression d'entendre cette rengaine depuis des années.
Alors, détrompez-vous. À Science et Vie, en tout cas, quand on parle des jeux vidéo, ces dernières années, c'est plutôt positif. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les jeux vidéo, ça peut renforcer les capacités visuo-spatiales, ça fait réfléchir, peut être très positif. Cela dit, les jeux en réseau, et ça reste uniquement une hypothèse, effectivement, peut-être qu'on nous démontrera plus tard que ça n'est pas le cas, mais l'hypothèse qui est faite par un rapport de l'OCDE qui étudie les inégalités scolaires entre filles et garçons, et que les jeux en réseau, qui sont très addictifs parce qu'on va jouer pendant des heures avec ses copains sur internet, on va avoir du mal à décrocher, là les jeux en réseau, ça peut réellement avoir un impact négatif. En tout cas, c'est ce qui était montré dans ce rapport de l'OCDE. Il y avait vraiment une corrélation, plus les enfants jouaient à ces jeux en réseau, moins leurs résultats scolaires étaient.
Et ce qui est dingue, c'est qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais donc il y a cette injustice faite aux garçons à l'école, puis après ça s'inverse. Vous commencez votre article par ça d'ailleurs.
Oui.
Pour faire la liste de tous les domaines où les femmes sont finalement lésées par rapport aux garçons.
Ah oui, ce serait très long.
Vous démarrez comme ça, alors je vais le faire pour vous. Hein. Salaire, tâches ménagères, présence à l'Assemblée nationale ou à la tête des grandes entreprises, violences domestiques.
Oui. Et c'est trois petits points.
On aurait pu continuer.
Ça n'est pas exhaustif. Mais effectivement, et c'est peut-être pour ça, oui, que les filles travaillent plus à l'école, réussissent plus à l'école. C'est peut-être pour contrer ces inégalités, ces injustices en leur défaveur.
On continue de parler de l'échec scolaire dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises.
Allez mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. File. Oh. Qu'est-ce que je vois là? Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit chérie pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école.
La curiosité est un vilain défaut.
Maman est très en colère.
C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises.
Tu as trahi ma confiance, mon chéri. Je suis très déçue.
Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire. Ok.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ça s'appelle l'éducation bienveillante.
Oui, c'est ça. C'est Florence Foresti qui fait le lien entre nos deux thèmes, l'échec scolaire et les Pokémon dont on parlera dans un instant. On parle de l'échec scolaire, évidemment, parce que c'est la semaine de la rentrée. C'est jeudi pour les élèves avec son lot d'excitation, de stress et donc d'injustice. Les garçons qui rentrent cette année en 6e seront beaucoup plus victimes d'échecs scolaires que les filles. C'est ce que raconte notre invitée Elsa Abdoun dans un article du magazine Science et Vie. C'est en partenariat avec RTL. Y a des conséquences à l'âge adulte de cet échec scolaire des garçons? Oui, forcément. On a évoqué le chômage tout à l'heure.
Oui.
Il y en a d'autres.
Et effectivement, c'est encore une corrélation qui a été mise en évidence par un rapport de l'OCDE en 2011 sur le sujet, qui rappelle que l'échec scolaire est corrélé à une moindre santé mentale en particulier, à de plus forts taux de criminalité. Ce qui peut s'expliquer par le fait que la réussite scolaire, ça participe à la valorisation de soi, à une certaine fierté, et que voilà, l'échec scolaire, ça n'est pas uniquement l'emploi et le salaire, même si c'est une part très importante, il y a d'autres impacts potentiels.
Une espèce de spirale négative qui peut s'enclencher, on va pas être non plus trop alarmiste, mais qui peut s'enclencher.
Non, bien sûr, de toute façon, on n'est pas alarmiste à partir du moment où les conséquences, on les voit déjà, l'échec scolaire des garçons, il est là depuis un certain temps. Il y a aussi un effet que je trouve particulièrement...
Non, mais je voudrais
particulièrement...
pas qu'on puisse penser que un garçon est en échec scolaire, donc il va forcément se retrouver délinquant. Vous voyez, c'est un raccourci qui est ridicule, donc il faut pas être...
C'est sur des échantillons énormes,
bien
effectivement,
sûr.
Qu'on voit une corrélation. Ça reste... Voilà, il faut, c'est important pour chacun d'avoir, si on peut, une meilleure réussite scolaire. C'est évidemment pas dramatique.
Et on peut aussi s'en sortir sans forcément avoir son bac ou sans avoir réussi à l'école.
Mais une dernière chose que je trouve vraiment intéressante, c'est l'hypothèse selon laquelle peut-être les garçons qui sont en échec scolaire vont rechercher leur fierté ailleurs. Et dans les stéréotypes machistes, justement, l'idée que en laissant cet échec scolaire plus important des garçons, on favorise les stéréotypes machistes parce qu'ils vont aller chercher la fierté, voilà, dans une virilité, d'une domination par la force, pour compenser cette domination entre guillemets des filles à l'école.
Elsa Abdoun, tout à l'heure, juste avant les infos, on se demandait si l'explication de cet échec scolaire qui est prioritairement. Surtout masculin. Et la fatigue, c'est assez féminin aussi.
Surtout masculin.
S'expliquer notamment par la biologie. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'il y a des différences, je ne sais pas, hormonales? Ça, on sait qu'elles existent entre les garçons et les filles qui peuvent expliquer cet écart, en fait, d'apprentissage et de niveau scolaire.
Oui, c'est une hypothèse évidemment extrêmement polémique d'invoquer la biologie quand on parle d'inégalité scolaire, c'est assez compliqué. Très honnêtement, il n'est pas nécessaire d'aller chercher la biologie pour expliquer. Les facteurs culturels sont énormes. La biologie pourrait jouer un rôle. Si elle joue un rôle, ce qui n'est pas encore démontré, il est probablement faible.
Mais il y a eu des études dans ce sens ?
Voilà, on a quand même des raisons de penser que c'est possible. Pour rappel, on n'a pas les mêmes chromosomes dans chacune de nos cellules. On a de l'ADN qui diffère et on ne sait pas exactement encore à quoi sert tout cet ADN. On a, comme vous le disiez, des hormones différentes qui baignent tout notre corps, notre cerveau y compris. Et ces hormones, la testostérone chez les garçons, les œstrogènes chez les filles, chez les femmes, participent au développement cérébral. D'être exposé à des hormones différentes, des IRM, des études par IRM, donc de l'imagerie cérébrale, vraiment l'ont montré. Nos cerveaux à l'adolescence, notamment, ne maturent pas à la même vitesse. Il y a certaines aires, et c'est intéressant parce qu'il y avait une étude qui montrait certaines aires, et en particulier une aire impliquée dans le self-control, pour le dire vulgairement, qui maturait, voilà, plus lentement chez les garçons, chez les adolescents que chez les adolescentes. Et puis on voit aussi que certaines filles qui sont atteintes d'un trouble génétique et qui du coup ont été exposées à la testostérone pendant le développement fœtal, ont des comportements plus agités. Alors on en revient à l'agitation naturelle ou pas des garçons, peut-être qu'il y a aussi une part naturelle en plus de celle qu'on crée.
Mais Elsa Abdoun, si l'explication est biologique, j'ai bien entendu que vous mettiez pas mal de guillemets et de bémols, ça veut dire que ce constat d'échec scolaire chez les garçons, bah, il existerait partout dans le monde. Est-ce qu'il existe partout dans le monde ?
Eh bien, oui. Ouais. Ou presque. Dans tous les rapports que j'ai pu étudier, il n'y avait pas évidemment absolument tous les pays du monde qui étaient recensés, mais il y en avait énormément. Et c'est quand même un phénomène qu'on retrouve à peu près partout sur le globe, à des degrés divers, mais c'est assez universel, oui.
Alors, est-ce qu'on cherche aujourd'hui à réduire cet échec masculin? Est-ce qu'on cherche des solutions? Par exemple, cesser la mixité de l'école.
Oui.
Alors, sauf si c'est polémique, ça.
C'est-à-dire les garçons, les filles, chacun dans sa classe, chacun ses profs.
Ça va me rappeler des souvenirs, ça, la bonne vieille école de garçons.
Alors effectivement, en France, ça n'est évoqué que par les chercheurs, les spécialistes de sciences de l'éducation, qui se posent vraiment la question, c'est une vraie question, de savoir si la mixité, finalement, n'a pas favorisé les inégalités scolaires en renforçant les stéréotypes. C'est-à-dire qu'en se disant, si on sépare les sexes, n'étant plus confrontés filles et garçons l'un à l'autre, on va moins être dans des comportements stéréotypés. Et il y a des publications qui suggèrent que séparer les sexes, c'est bénéfique pour l'égalité scolaire, d'autres qui vont dans l'autre sens. Par contre, au niveau pratique, politique, en France, non, ça n'est pas envisagé du tout actuellement.
Même sur peut-être certaines matières, parce qu'on n'est pas obligé de revenir au lycée de garçons d'un côté, puis le lycée des filles de l'autre côté de la rue. On voit ça encore dans beaucoup d'écoles.
Vous avez vécu ça, Thomas ?
Lycée de garçons, lycée de filles, bien sûr. On allait draguer en traversant la rue, c'est pas grave, on s'en sortait. Mais il y a peut-être des solutions moins radicales, c'est-à-dire sur certaines matières, peut-être.
Effectivement, quelques personnes proposent ça. Là encore, ça ne fait vraiment pas l'unanimité. Parce qu'on est effectivement, par exemple, l'idée de séparer les cours de lecture à certains âges bien particuliers pour adapter l'enseignement de la lecture aux garçons. Mais après, effectivement, la question se pose de pourquoi ne pas faire simplement des groupes en fonction du niveau de lecture plutôt que par sexe, a priori. Donc voilà, c'est encore.
Et masculiniser l'école, c'est une solution. Pour les enseignants, hein, je parle. Mm-hmm. C'est une solution envisagée aussi par les chercheurs.
Oui, c'est des propositions que j'ai entendues, qui sont aussi extrêmement minoritaires. Hein, faire de la discrimination positive en faveur des hommes à l'école quand on ne la fait pas pour les femmes ailleurs, c'est assez peu entendable, en tout cas entendu pour l'instant. Donc toutes les solutions de ce type-là, finalement, sont assez peu envisagées au ministère de l'Éducation nationale. On est plutôt dans un discours d'amélioration. Améliorer l'enseignement en général pour bénéficier à tous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est que les différences encore entre des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers, elles sont, dans les résultats scolaires, eh bien, elles sont encore plus importantes que les différences entre filles et garçons. Et donc, il y a plutôt l'idée d'améliorer l'enseignement pour bénéficier à tous les groupes et à tous les enfants qui ont du mal à s'en sortir, plutôt qu'aller vers des actions spécifiques pour les garçons.
Merci beaucoup. Merci à Elsa Abdoun. Je rappelle que votre article est à lire dans le magazine Science et Vie et que c'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.